Ce soir, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu autour d'un thème particulier qui est l'amour de Dieu. Alors, toute la Bible parle de l'amour de notre Seigneur. Et j'aimerais, pour commencer, que l'on puisse lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, à partir du verset 1er. Donc, évangile de Jean, chapitre 13, à partir du verset 1er. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds. Mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. » Alors, déjà nous allons poser le contexte. On voit que cet événement qui nous est relaté, il nous est dit que c'était avant la fête de la Pâque, pendant le repas. Et nous savons que c'est le moment où Judas avait décidé de trahir Jésus, donc nous pouvons en déduire que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pendant le dernier repas du Seigneur, pendant le repas de la Pâque, où il a institué la Sainte Cène. Et on sait que l'évangile de Jean donc, a été écrit par l'apôtre Jean et qu'il a été écrit bien plus tard que les autres évangiles. Jean l'a écrit dans sa vieillesse. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que Jean, ce qui l'a marqué pour lui, ce n'est pas l'institution du repas qui avait été déjà expliquée par les autres apôtres et les autres évangiles, c'était le fait que Jésus a lavé les pieds des disciples. Et nous allons voir ensemble pourquoi Jésus a fait ça et qu'est-ce que nous pouvons en tirer. Nous voyons au verset 3 qu'il nous est dit que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait au Père. Et là, on voit que Jésus était à un tournant de sa vie sur la terre. Il était venu, il est venu du Père et il s'en allait au Père. Et là, il était à un croisement de sa vie. Il amorçait son retour vers le Père. Et nous savons de ce qui va se passer après ce repas, ce qui va se passer au jardin de Gethsémané, ce qui va passer devant le Sanhédrin, devant le souverain sacrificateur, jusqu'à la croix. Et nous voyons que Jésus a amorcé son retour vers le Père. Et j'aimerais que nous lisions ensemble un deuxième texte qui se situe dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et à partir du verset 3, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3, il nous est dit ceci : Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et on voit dans ce texte que Jésus est venu, qu'il s'est dépouillé, et on retrouve cette idée que Jésus est venu et que Dieu l'a élevé par la suite. J'aimerais qu'on voie quelques aspects de la venue de Jésus. La première chose qu'il nous est dit dans ce texte, c'est qu'il n'a pas considéré ses propres intérêts. Alors qu'est-ce qu'il a considéré ? C'est écrit qu'il a considéré ceux des autres. La première chose que nous pouvons voir, c'est que si Jésus est venu, ce n'était pas dans son intérêt, mais c'était dans notre intérêt, à nous, ceux des autres. La deuxième chose que nous pouvons voir, il nous est dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Et le terme « lui-même », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il l'a fait volontairement. Il n'a pas été forcé, il l'a voulu. On a un texte dans la Bible où Dieu dit « Mais qui enverrai-je ? » Et Jésus répond « Mais me voici, envoie-moi. » Dans l'Ancien Testament, un texte prophétique. Donc, nous voyons que Jésus, s'il est venu, ce n'était pas dans ses intérêts et que ce n'était pas forcé, c'était volontaire. Il l'a voulu et il l'a voulu pour nous. Il nous est dit que il a changé de condition, qu'il était, verset 6, la condition était celle de Dieu, et ensuite il a pris la condition d'un esclave. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Même s'il a changé sa condition, même s'il a changé sa position, qui était égale au Père et qui s'est soumis à Dieu, son identité reste la même, c'était Dieu. Et nous voyons que Dieu lui-même a pris la place d'un serviteur. Il a été fait, comme ça nous a été dit, semblable aux hommes. Je vais vous lire un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, et à partir du verset 14. Ça nous est dit, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. » Il nous est dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. » Il nous est dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris la condition humaine. Et c'est vrai que là, il y a un point que des fois on a du mal à comprendre. Que Jésus est Dieu, et pleinement Dieu, et que Jésus est pleinement homme. Il a tout vécu, ce qu'un homme pouvait vivre. Et là, c'est vrai qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas expliquer. Comment c'était possible que Dieu ait cette double nature, la nature de Dieu, la nature de l'homme. Mais même si nous ne le comprenons pas, nous pouvons l'accepter par la foi. Jésus était pleinement Dieu et Jésus était pleinement homme. Ensuite, donc, nous avons vu qu'il a pris, si on reprend du début, c'est qu'il n'a pas regardé à ses intérêts, qu'il s'est dépouillé, qu'il a pris notre condition d'homme. Et ensuite, quand il a pris notre condition d'homme, quand il était semblable aux hommes, il s'est humilié. Il nous est dit dans le texte des Philippiens. Et on voit dans le texte où Jésus lave les pieds aux disciples que Jésus s'est humilié. Il a fait ce que même on ne demandait pas aux esclaves. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il nous est dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Et dans ce texte, on voit que Jésus se dépouille de ses vêtements et qu'il revêt un linge. Et pour nous, là, on voit que ce que fait Jésus, c'est vraiment tout ce qu'il a fait depuis qu'il est venu. C'est qu'il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de ce qu'il avait et il a revêtu le linge. Il a revêtu la place de l'esclave, ce qui nous est dit dans les Philippiens. Et on voit bien cette image dans le texte de Jean. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus, il a fait tout ça ? Eh bien, la réponse, on la trouve au tout début du chapitre 13 de l'évangile de Jean. Il nous est dit, à la fin de ce verset, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et littéralement, c'est écrit, il les aima à l'extrême, jusqu'au bout, jusqu'aux limites, là où aux limites de l'amour. Il les a aimés jusqu'au bout. Et si nous voyons que Jésus, il est venu pour servir, c'est par amour pour nous. S'il n'a pas regardé à ses intérêts, c'est parce qu'il nous aimait. S'il s'est dépouillé, il n'a pas regardé à la condition qu'il avait, c'est parce qu'il nous aimait. Et s'il s'est rendu serviteur de ses disciples, c'est parce qu'il les aimait. Nous avons un texte dans la Bible qui nous dit que Dieu est amour. Nous connaissons le verset Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé. C'est pas juste il a aimé, il nous a tellement aimé. Dans la première épître de Jean chapitre 3 verset 16, c'est écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné son Fils pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et nous savons que Jésus n'a pas juste été au service des disciples par amour, il n'a pas juste lavé les pieds. On sait qu'ensuite, Jésus, il est allé à la croix, qu'il a donné sa vie. Et nous savons qu'il n'était pas obligé. Il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, selon la justice de Dieu, nous méritions la mort. Et si nous méritions la mort, bah, il n'avait pas besoin de venir, ça aurait été juste. Mais parce qu'il nous aime, Jésus a pris notre place à la croix. Quand je dis qu'il a pris notre place, ça ne veut pas dire que si nous, on était allés à la croix, on aurait mérité le salut. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas parce que nous, on aurait été crucifiés à la place de Jésus qu'on aurait mérité le salut. Quand il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort dont il nous est parlé, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Si on prend un exemple, il nous est, quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Le jour où il en a mangé, il est mort. Il a été séparé de Dieu, mais il n'est pas mort physiquement. Je crois que c'est Paul qui dit à Timothée, qu'il met en garde, il dit qu'il y a des veuves qui sont mortes, quoique vivantes. Donc on voit bien qu'il y a des personnes qui sont mortes, c'est-à-dire loin de Dieu, séparées de Dieu, bien que vivant physiquement. Et le salaire du péché, c'est cette séparation d'avec Dieu. Et quand Jésus est allé sur la croix, il n'est pas juste mort physiquement. Il nous est dit qu'il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette séparation, cette mort, c'est Jésus qui l'a vécu et qui l'a subi à la croix. Pourquoi ? Bah pour que nous, qui acceptions son sacrifice, nous ne soyons plus jamais séparés de Dieu. Il a pris, c'est vrai, la mort, il a été séparé de Dieu. Nous savons aussi qu'il a souffert et qu'il a été meurtri pour que nous ayons la guérison. Il n'est pas juste mort, simplement, il a souffert. Il a vécu l'agonie à Gethsémané, il a été flagellé, 40 coups moins 1. On lui a mis l'épine sur la tête, il a dû porter sa croix. Il a souffert pour qu'aussi nous ayons la guérison. Et donc ça, c'était le premier point, c'est que Dieu nous aime. Et tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il nous aime. Et la question que j'aimerais maintenant nous poser à tous, c'est quelle attitude avons-nous vis-à-vis de l'amour de Dieu pour nous? Alors on a deux attitudes en fait que l'on peut avoir. La première, elle consiste à accepter le sacrifice de Jésus, accepter ce qu'il a fait pour nous. Croire, c'est-à-dire mettre notre confiance en ce que Jésus a fait pour nous. Et en retour de l'amour que Jésus a eu pour nous, nous aussi, nous pouvons l'aimer. C'est écrit que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous pouvons aussi donner notre vie pour lui, mais par amour. La Bible nous parle de la repentance et la conversion, afin que nous soyons sauvés. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un changement de mentalité, dans le grec, métanoïa. Changement de mentalité. Ça veut dire que nous qui étions ennemis de Dieu, nous qui n'aimions pas Dieu, face à cet amour qu'il a eu pour nous, est-ce que nous ne pouvons pas changer d'attitude vis-à-vis de lui? C'est-à-dire que ce Dieu que nous méprisions avant, que même peut-être nous insultions, nous utilisions son nom pour des insultes ou toutes sortes de choses, est-ce que maintenant, vis-à-vis de ce qu'il a fait, est-ce que nous ne pouvons pas changer d'attitude et l'aimer? Ce Dieu qu'avant nous méprisions ou nous ne lui donnions aucune importance, est-ce que maintenant nous ne pouvons pas lui donner de l'importance dans nos vies et même la première place? Ce Dieu qui a tout donné pour nous, est-ce que nous ne pouvons pas tout donner pour lui? Le deuxième mot, c'est conversion. Là, ça veut dire changement de direction. Je n'ai pas le mot grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la direction dans laquelle j'allais, eh ben je ne la suis plus. Je change de direction. Avant, j'étais ennemi par mes pensées, par mes actes de Dieu. Et maintenant, je choisis de suivre Dieu, de prendre son joug et de marcher à côté de lui. Et c'est vrai que quand nous aimons Dieu, il nous est dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et c'est vrai que souvent, quand on est chrétien, il peut arriver qu'à certains moments, on perde ce feu du premier amour, et on se rend compte qu'en perdant ce feu du premier amour, ça devient difficile de servir Dieu, et ça devient difficile de lui obéir, tout simplement parce qu'on s'aime plus soi-même que Dieu. Mais si on aime vraiment Dieu, ça veut dire qu'on aime être avec lui, ça veut dire qu'on aime le suivre, ça veut dire qu'on aime lui obéir, ça veut dire qu'on le respecte. On peut prendre l'image d'un homme et de sa femme. Quand un homme, il aime sa femme, il va vouloir passer du temps avec. Quand un homme, il aime sa femme, il ne va pas lui être infidèle. Quand un homme, il aime sa femme, il va l'écouter, il va la respecter. C'est pareil avec Dieu. Il faut que nous changions d'attitude vis-à-vis de Dieu et que nous l'aimions. Le premier des commandements, d'ailleurs, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. » Et la deuxième attitude que nous pouvons avoir, donc la première, c'est nous repentir et nous convertir. La deuxième, c'est que nous pouvons refuser. Et Dieu nous laisse libres, justement parce qu'il nous aime. Et même s'il a tout fait pour nous, il a tout accompli, nous avons aussi notre part à faire. Et il ne nous forcera jamais, parce qu'il nous aime. Ensuite, dans les deux textes que nous avons lus, dans le texte des Philippiens, c'est écrit « Ayant vous la pensée qui était en Jésus-Christ ». Et dans l'évangile de Jean, nous avons lu au verset 15, il nous est dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. L'apôtre, ça veut dire celui qui a envoyé. Donc, si on retraduit, ça veut dire celui qui a été envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Tout simplement. Et il nous est demandé, à nous qui sommes chrétiens, à nous qui avons accepté ce salut, qui avons accepté l'amour de Jésus et qui nous sommes engagés à le suivre, il nous est demandé d'être comme notre maître. Il y a un autre texte qui nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a les deux. Et si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Alors, il nous est demandé d'être comme notre maître. Alors, qu'est-ce que le maître a fait? Nous voyons premièrement, dans les textes que nous avons lus, qu'il a servi les disciples. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous nous servons les uns les autres? Est-ce que nous nous mettons au service de nos frères et de nos sœurs? Je ne sais pas pourquoi vous venez à l'église. C'est vrai que c'est pour recevoir du Seigneur. Et l'Église, c'est une assemblée. Il nous est dit dans la première épître aux Corinthiens que le corps, que l'Église, c'est un corps. Nous sommes membres les uns des autres. Et c'est vrai que nous venons ici pour être dans la présence de Dieu. Et c'est le but de ces moments, c'est que Dieu puisse manifester sa présence et que nous puissions recevoir de lui. Mais lorsque l'on vient ici, est-ce que nous, plutôt, nous venons aussi pour servir les autres? Est-ce que cet amour que le Père avait, que Jésus a manifesté, puisqu'il nous a manifesté le Père, est-ce que nous avons cet amour en nous pour nous mettre au service les uns des autres? Donc il a servi les disciples. Il nous est dit qu'il a donné sa vie. Et nous, est-ce que nous donnons notre vie ou est-ce que nous la gardons pour nous? On voit que l'amour, en quoi ça consiste? Il nous est dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde car il a donné son Fils. 1 Jean 3,16, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit, je pense qu'on peut le lire ensemble, première épître de Jean, au chapitre 3, verset 16. Oui, c'est facile à retenir, Jean 3,16, 1 Jean 3,16, qui nous parle tous les deux de l'amour du Père. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, il nous est dit, à ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et vous savez que le contraire de donner, c'est de garder. C'est pas très philosophique ce que je vous dis, mais c'est ça. Et est-ce que nous gardons notre vie pour nous? Est-ce que ce que nous faisons, c'est pour nous? Ou est-ce que ce que nous faisons, le temps que nous passons, nous le donnons aussi pour les autres? Avant tout, avant de le donner pour les autres, on a vu avant que c'était d'abord le donner à Dieu. Mais est-ce que nous avons cet amour? Est-ce que, si je traduis d'après la parole, est-ce que nous nous donnons aux autres? Il y a un texte qui m'a souvent marqué. Dans 1 Corinthiens 13, quand il nous est parlé de l'amour et des caractéristiques de l'amour, il nous est dit que l'amour n'est pas envieux. Et on voit que, ça pourrait être bizarre, c'est difficile à comprendre. L'amour n'est pas envieux. Quand on a envie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'on veut pour soi, je veux quelque chose. Et on voit que l'amour, ça ne consiste pas à vouloir les choses ou à vouloir les gens pour nous, mais ça consiste à se donner aux autres. Et c'est important. Le vrai amour, celui qui vient de Dieu, il ne consiste pas à garder, à s'accaparer les gens pour soi ou à parler aux gens en fonction du bien qu'ils peuvent nous apporter à nous. Parce que c'est facile de discuter avec tel frère parce qu'on est bien avec lui, il nous fait rire, ça nous fait plaisir, on est tout bien avec. Mais c'est vrai que le vrai amour, il consiste non pas à regarder à nos intérêts, comme ça a été écrit plus tôt, mais ça consiste à regarder aux intérêts de l'autre. Et plutôt qu'aller avec un frère que l'on connaît très bien et qui nous apporte du bien, on peut très bien aller avec la personne qui est toute seule, qui peut-être vient pour la seule et unique fois dans l'église, et plutôt nous donner à cette personne-là. C'est important. Troisième chose, donc il a servi les disciples, il a donné sa vie. Et là, comme je disais, il n'a pas regardé à ses intérêts. Et nous aussi, quand nous venons à l'Église, est-ce que nous venons d'une manière intéressée pour le bien que l'Église nous procure? Quand nous venons à Dieu, est-ce que nous venons à Dieu pour le bien que Dieu nous procure? Ou est-ce que nous venons à Dieu pour nous donner nous-mêmes à lui? Est-ce que nous venons à l'Église pour nous donner nous-mêmes à l'Église? J'aimerais qu'on voie ensemble un dernier point. La question que j'ai posée, c'est alors comment aimer? Parce que là, j'ai dit ce qu'il fallait faire, mais j'ai pas dit comment. Ou sinon, comment donner? Alors deux points, tout simple. Comment donner? La réponse, c'est en recevant. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et nous savons que dans Romains 5, verset 5, il nous est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On a d'autres textes, par exemple dans Galates 5, 22, où il nous est dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Et le Seigneur Jésus, en parlant du Saint-Esprit, nous dit « Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. » Et plus particulièrement, pour nous ce soir, il est écrit « Demandez et vous recevrez. » Et il est évident que cet amour-là, on ne l'a pas en nous-mêmes, on ne l'a pas dans notre nature. Quand nous, par nous-mêmes, nous voulons faire les choses, c'est vrai que quand nous allons voir les gens, c'est souvent d'une manière intéressée. Si on est honnête, on s'en rend très vite compte que si on va discuter avec telle ou telle personne, ce n'est pas forcément parce qu'on a un amour désintéressé, mais des fois derrière, il y a un intérêt. Et là, il nous est demandé de recevoir. Dans la première épître à Timothée, ou la deuxième, nous sommes comparés à des vases. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un vase, il peut donner que ce qu'on a mis dedans. Il n'y a rien qui va sortir du vase tout seul. À part un moment où il y a eu un miracle, où c'était la veuve, où Élie lui avait dit « L'huile ne manquera pas ». Et effectivement, l'huile n'a pas manqué. Mais hormis ça, quoi qu'on pourrait s'appliquer cette image à nous-mêmes. Parce que nous savons que l'huile, dans l'Ancien Testament, ça représente le Saint-Esprit. Les vases, si ça représente nos vies, nous savons que Jésus, c'est la source. Et que si nous avons la source en nous-mêmes, alors des fleuves d'eau vive peuvent jaillir de nous-mêmes. Et c'est ça le premier point, c'est que pour pouvoir aimer, pour pouvoir donner, il faut d'abord recevoir. Et est-ce que, d'un point de vue pratique, par exemple, le matin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je me réveille le matin, je suis vide. J'ai cette impression d'être complètement sec et complètement vide. Et j'ai besoin, et nous avons besoin, de nous retrouver dans la présence de Dieu tous les matins. C'est écrit, donne-nous notre pain quotidien. Pas le pain hebdomadaire, c'est le pain quotidien. Donc tous les jours, comme les Israélites avaient besoin d'aller tous les jours chercher la manne, nous avons besoin tous les jours de venir à Dieu et de recevoir ce dont nous avons besoin pour ensuite, dans la journée, le donner. Parce que si nous partons direct et que nous sommes vides, ben on ne pourra rien donner. Et ce qui sort du propre cœur de l'homme, ce n'est pas très bon en réalité. Il y a un texte où Jésus nous dit ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui vient de son cœur, parce que c'est de là que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, etc., dans la nature humaine. Mais Dieu nous a donné son Saint-Esprit afin que, il nous ait dit, afin que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et la deuxième chose, et la dernière chose, il nous est dit, si on va dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Pardon. Et là, il nous est dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter de fruits. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce que Jésus a fait. Il est mort. Et par sa mort, mais quel fruit il a porté ! Combien d'âmes ont été sauvées ? Combien de personnes ont été délivrées, ont été guéries ? Et combien d'enfants rachetés sont déjà rentrés dans la gloire ? Et combien d'autres y rentreront ? Pourquoi ? Parce qu'il est mort à lui-même. Et il nous a laissé un exemple. Tout l'enseignement de l'apôtre Paul, il se résume en fait qu'il faut mourir à nous-mêmes, se dépouiller du vieil homme, c'est la même chose, et revêtir Christ. Et pour nous, nous savons que cet amour que le Seigneur nous demande d'avoir, nous ne pouvons pas l'avoir en nous-mêmes. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous puissions mourir à nous-mêmes. Ce qu'il nous demande, c'est que nous renoncions à ce que nous sommes, que nous portions notre croix. Il y a plein d'expressions équivalentes. Et que nous revêtions Christ, que nous puissions lui laisser la place. Parce que cet amour que Jésus-Christ a manifesté, on ne peut pas le fabriquer nous-mêmes. Il ne peut pas venir de nous-mêmes. Il peut venir que de lui. Il faut lui laisser la place, afin que ce soit Christ qui aime au travers de nous. Et si nous mourons à nous-mêmes, si nous renonçons à ce que nous sommes, alors nous pourrons aimer réellement et véritablement les frères comme nous avons besoin. On ne peut pas faire ce que Christ seul peut faire. C'est Watchmani qui dit que le seul homme qui peut être un bon chrétien, c'est Jésus-Christ. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de mourir à nous-mêmes et de laisser Christ vivre en nous. On ne peut pas faire ce que Jésus seul a pu accomplir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre notre confiance en lui et lui laisser toute la place. Et si on lui laisse toute la place, alors il peut faire son œuvre au travers de nous. Et là, c'est sûr qu'on ne se glorifiera pas. L'amour ne se vante pas. Mais on laissera la gloire au Seigneur. Parce qu'on sait très bien que cet amour qui jaillira au travers de nous, ça ne sera pas de notre propre nature, mais ça sera de la personne de Jésus qui est en nous. On va incliner nos têtes et prier le Seigneur afin qu'il puisse nous donner cet amour et que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies. Seigneur, c'est ta parole, elle est la vérité, et tu dis que ta parole est vivante et qu'elle est agissante. Et nous voulons nous placer devant toi, nous placer entre tes mains et te demander d'agir dans nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses, comme j'ai dit au début, juger nos pensées, nos sentiments, afin de nous montrer ce qui est de toi, ce qui n'est pas de toi. Que tu puisses nous montrer quand notre amour est intéressé, Seigneur. Et ce que nous voulons pour notre part, c'est te laisser la place, afin que vraiment tu puisses faire ton œuvre en nous, Seigneur. Que tu puisses porter ce fruit et que ton âme soit bénie. Tu dis que ceux du dehors reconnaîtront que nous sommes tes enfants à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Alors, nous te demandons dans ta grâce de répandre cet amour dans nos cœurs par ton esprit, afin que déjà ceux qui soient sauvés, le reste, et que nous le puissions nous aider les uns les autres, mais qu'aussi ceux du dehors puissent voir la différence et puissent voir ton amour au travers de nos actes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous avons cette confiance en toi. Que ton nom soit béni. Amen.